15 octobre 2007, rencontre avec François Bon. Rencontre autour de l'œuvre de Daniel Colobert. Daniel Colobert, écrivain des années 60-80, elle est née à Rostrenen en 1941 et elle meurt en Paris en 1978. Ses œuvres complètes sont éditées chez PEL. François Bon, écrivain, qui par ailleurs vient de sortir un livre sur Bob Dylan, nous fait part de la découverte de ses lectures et de cette époque. Je l'ai vu accroupi dans le soleil, comme une arche, un amas séparé, incrusté dans la terre. Par moments, il perdait son immobilité et devenait une forme rigide et brusque. Ses mouvements n'avaient aucune tenue et pourtant je les devinais plein de précision, d'une habileté fantastique. J'ai mis tant de temps à comprendre ses gestes. Ils avaient deux sortes d'activités. L'une partant de ses mains, l'autre de ses yeux, si l'on peut dire. L'immobilité était factice, avec deux doigts très longs, plats, légèrement recourbés aux dernières phalanges, il creusait des petits trous dans le sable tout autour de lui. Je m'en suis rendu compte d'abord par les minuscules cercles d'ombre qui l'entouraient, comme si tout autour de lui, s'était abattue une pluie de balles, une limite dangereuse.
Si je me souviens bien, c'est en revue, tout simplement. Peut-être par la revue Change, et donc c'était des extraits de Dire 1 et 2. Ouais, et tout simplement, peut-être, quand on découvre dans des revues comme ça, bon, la force, on sait la reconnaître. Mais là, en plus de la force, il y avait comment dire, une matière, matière vile, matière corps. Mais en tout cas, en plus de l'intensité, il y a une poésie de l'intensité, toute cette poésie du blanc, des choses extrêmement tendues, intenses. Donc ça, on savait le reconnaître déjà. Il y avait d'autres auteurs, comme ça, je pense à Claude Royer-Journoux ou d'autres. Mais immédiatement, dans ces phrases de Colobert, on voyait qu'il y avait une capacité d'image, comme ça. Donc voilà. Donc après, le premier bouquin que je me suis procuré, est-ce que c'était Dire 1 et 2, ou Il donc, ou les deux à la fois, je ne sais pas. Je crois que c'est Il donc, le premier que j'ai lu, c'est des bouquins qu'on prend comme des coups de poing, quoi, tout simplement. Mais c'est peut-être difficile de s'imaginer ce que c'était il y a 20 ans. D'une part, le travail des revues était beaucoup plus actif que c'est aujourd'hui. D'autre part, même si c'est pas question de logique d'avant-garde ou de respect comme ça, il y avait probablement une écoute du travail contemporain beaucoup plus respectueuse que ce qui est maintenant. Je pense que ce qui s'est installé depuis 10 ans, c'est une dérégulation critique où tous les journaux parlent de la même chose et ils parlent principalement de ce qui se vend et selon les quantités que ça se vend. Et c'est pas la question que ce soit affligeant, c'est que je pense qu'on n'est pas en condition de mesurer les dégâts que c'est. Quand j'avais, dans ces années-là, donc c'était avant que j'ai publié mon premier bouquin, ou juste après, à Paris, le rendez-vous, c'était une librairie qui s'était rue Saint-André des Arts, qui s'appelait Action Poétique, où il n'y avait que de la poésie. Bon, maintenant, je ne sais pas combien, entre les librairies qui sont devenues des marchands de fringues, ou les librairies qui sont devenues des machins de hamburgers et tout ça, c'est peut-être là où on a du mal à se rendre compte. C'était pas difficile de savoir ce qui se faisait de bien en librairie et tout ça. Enfin, en tout cas, Colaubert, c'est là que je l'ai rencontré.
Il plongeait ses deux doigts, les tournait dans le sol, puis, d'un coup de poignet, léger, soulevait la terre qui retombait en pluie.
Pour vous, pour être à la fois connu uniquement dans un petit cercle d'écrivains et de poètes en particulier, et à la fois en fait le fait qu'elle soit restée dans une marge.
Dans notre histoire littéraire, il y a toujours eu comme ça des auteurs qui ne pouvaient être pas des auteurs pour écrivains, mais des œuvres comme ça tellement singulières qu'elles restent longtemps comme ça dans un petit œuf. Alors c'est complètement paradoxal parce que des choses aussi acérées d'un côté ou paradoxalement lumineuses de l'autre peuvent immédiatement rejoindre un très large imaginaire collectif ou même une part de l'inconscient. Le travail d'Henri Michaud est certainement pas plus, enfin, ne portait pas plus de confidentialité que celui de Colaubert, mais comment dire, Michaud, d'une part, il a continué un travail de peintre et donc il s'est fait reconnaître par les milieux artistiques et de peinture, et c'est eux qui ont finalement porté cette poésie. D'autre part, il ne s'est pas suicidé à 38 ans. Par contre, c'est à partir de quand il a eu 45 ou 50 ans que son travail a commencé de conquérir cet écho, même si les travaux qu'il publiait à 29, 32 ou 35 ans restent, je pense à La Nuit Remue par exemple ou Un Sportif Folie, ça reste pour nous un petit peu des choses essentielles, le moment comme ça où un auteur s'établit sur sa forme. Et pour Colaubert, c'est-à-dire le chemin qu'elle a parcouru, d'une part, elle a choisi elle-même dans ses premières années d'être complètement à l'écart du bain collectif. C'est pas un milieu littéraire, c'est pas des choses comme ça, c'est simplement qu'elle vivait avec un sac à main et qu'elle se baladait entre l'Inde ou New York et tout ça. Et donc c'était des rendez-vous rares, c'était une présence rare. Et puis le moment où cette œuvre a commencé de s'installer justement après Dire 1 et 2 et Il donc, et où elle aurait pu peut-être continuer, bon, ben, ça a été l'absence radicale par le suicide. Et j'ai toujours, c'est en 78 qu'elle est morte, j'ai pas vu d'éclipse dans l'intérêt qu'un nombre restreint de personnes lui ont porté, à commencer par ceux qui l'ont connu comme Jacques Roubaud ou Claude Royer-Journoux. On savait où étaient ces bouquins puisqu'ils étaient en stock, les collections Change avaient fait faillite. Et c'est un bouquiniste, Mona Lizet, qui avait racheté le stock. Donc on savait tous que qu'en descendant dans le sous-sol de Mona Lizet, à gauche, on allait trouver toujours ces quelques livres de Colaubert enveloppés sous cellophane qui restaient immuablement à 18 francs pour Il donc, et puis à 35 francs ou 32 francs pour Dire 1 et 2, et que ce serait inépuisable. Puis un jour, le libraire disait « Ah, il n'en reste plus que 60 », puis un jour, il n'en reste plus que 20 et... ». Puis un jour, il n'en est plus resté du tout. J'en ai encore deux, je crois, de chaque truc enveloppé sous cellophane dans mes réserves. Mais Par contre, aussi bien Jacques Roubaud que, enfin, que moi aussi, pour modeste part, à chaque fois, on sollicitait des éditeurs en disant « mais il s'agirait de celle-ci, de la rendre disponible, qu'elle... vendre quelqu'un mort 20 ans plus tôt, ben non, les éditeurs, ça les intéressait pas, jusqu'à ce que POL se lance enfin dans l'aventure. Et je suis pas sûr qu'il y ait retrouvé ses... qu'il ait pu payer ses factures avec ce qu'il a vendu, malheureusement.
Il pouvait faire ses mouvements sans bouger le reste de son corps. Pourtant, j'ai fini par remarquer qu'à chaque retombée de la terre, il se produisait chez lui une sorte de sursaut, un souffle, le signe peut-être d'un grand soulagement. Il est sans doute possible de donner à cet affaissement une autre signification, mais je ne le sais encore.
Colobert, moi, effectivement, j'ai, le premier livre que j'ai lu, c'est « Il donc », mais aussitôt, enfin, dès qu'on a affaire comme ça à des écritures enfin, d'une telle puissance et d'une telle singularité, on prend tout, comme on prend tout Artaud, avec les notes sur le cinéma, avec les écrits de Rodez, avec les voyages au Mexique, et tout ça, c'est d'une autre ampleur, évidemment, enfin, en quantité de pages. Mais Colobert, aussitôt donc après, ce que j'ai lu, c'est Meurtre. Et Meurtre, c'est des suites de récits en prose, donc qui incluent la question de la poétique, mais dans l'intérieur de leur démarche narrative. Et réciproquement, il n'y a pas un endroit de ces écritures qui peuvent paraître comme ça, imprimé, relevé de la poésie, qui ne pose pas la question de la narrativité et de la continuité, la déambulation dans les deux villes, enfin dans cette espèce de superposition d'en dire un et deux, où à la fois on traverse un village breton et puis à la fois on s'égare dans Venise. C'est d'abord une atteinte au genre, c'est-à-dire que la question, comme chez Coltès, peut-être à quelques toutes petites années d'intervalle, c'est d'abord parce qu'on déplace précisément le rapport de la littérature au réel, ou le rapport de l'écriture au réel, pardon, que la notion de genre devient parfaitement secondaire et qu'elle devient strictement impossible à cantonner soit à la prose, soit à la poésie. Et ça, pour nous, c'est vital. C'est des endroits où ce qui s'invente, c'est une façon de rapprocher la phrase de l'instance inatteignable du réel qui est de toute façon un peu en amont de cette expérience, qui est toujours un lieu de mutité ou un lieu d'absence ou un trou. Et il y a toujours des gens qui vont plus près du bord du trou. Colobert en fait partie. Mais après, c'est indivisible. C'est-à-dire que ce qui est fascinant chez elle aussi, c'est le mouvement. C'est-à-dire il y a ce démarrage en prose où on est si proche de... peut-être proche de Samuel Beckett, parce qu'elle-même en parle de l'importance qu'a eu pour elle sa lecture de Beckett. Et tout. Mais après, prendre cette écriture et la rebalancer comme ça sans même passer par la fable et l'histoire, avec juste l'interrogation sur la ville dans Dire un et deux, et puis ensuite l'interrogation sur le corps dans Il donc, et que le monde finalement devient non pas réduit, mais presque simplement résumable ou simplement devient l'allégorie de ce rapport de la main qui cherche, ou la main qui va vers le mur, ou qui va vers une chaise, ou simplement corps dans une pièce, ou corps sur le sol. Où est-ce qu'elle aurait pu aller après ce chemin-là? Le paradoxe, c'est que en se suicidant, elle tente à nous faire croire que c'est un mouvement d'écriture comme ça qui va vers l'épuisement et qui va vers le rien, alors que précisément, on a l'impression qu'elle nous laisse avec une phrase susceptible d'attraper de tellement plus près l'expérience du monde que tout pourrait recommencer, quoi. Et que ces voyages auraient pu être écrits et qu'il y avait tant encore à écrire, quoi. c'est pour ça que la question du suicide est complètement insoluble aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on passe à l'acte sur ces trucs-là? Est-ce que c'est parce que on est vraiment en impasse dans l'interrogation sur soi-même? Est-ce que c'est quelque chose qui date même d'avant l'écriture, ou quelque chose contre quoi l'écriture aurait tout le temps lutté, et à ce moment-là précis, l'écriture n'a pas le dessus, alors qu'elle pourrait le reprendre? Mais en tout cas, c'est pas... je pense pas qu'on puisse jamais... très longtemps, je l'ai pas croisé, et je connaissais pas son visage. J'étais extrêmement... incroyablement surpris la première fois que j'ai vu la seule photo que je connaisse d'elle, de cette espèce de force physique, ou même cette espèce d'apparence d'énorme calme. Quoi. C'est pas une fragilité, c'est pas une évanescence. Quoi. C'est, quelque chose a eu le dessus, mais ça la concernait, elle, dans son chemin humain. Et c'est pas une fin de l'écriture.
À chaque sursaut, il doit se déplacer de quelques centimètres, à peine. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible de s'apercevoir de la rotation qu'il effectue sur lui-même. On pourrait penser, à la manière dont je parle de ses gestes, qu'il faille donner, dans le temps, un rythme assez rapide à ses mouvements. Je peux dire maintenant que la percée d'un seul trou dans le sable lui demande un effort d'une heure, peut-être.
Cette phrase de Nietzsche qui dit « Il fait partie de mon bonheur de n'être pas propriétaire. » Elle était propriétaire simplement d'un sac à main. Et là, oui, ça devient fascinant. C'est-à-dire c'est des espèces de passagers au monde. Quoi. Et être vraiment et complètement ce passager avec son sac, trois carnets, cet ami italien qu'elle avait. Alors évidemment, tout ça bute sans arrêt sur qu'est-ce qui fait qu'à 38 ans, le jour de son anniversaire, on décide d'en finir avec tout ça, alors qu'en même temps, dans la tête, on a toujours la ville de New York et tout ça. Et pour moi, c'est une... même si l'œuvre est brève, comme Une saison en enfer ou Les humiliations de Rimbaud, c'est extrêmement bref, ce qui compte, c'est la dimension de ce avec quoi s'explique l'œuvre. Et dans son cas, elle s'explique avec des choses aussi lourdes et vastes que New York. C'est peut-être pas un hasard si pendant tout le temps qu'en France, on l'a laissé tomber, elle n'a jamais disparu des librairies américaines. Si effectivement les poètes américains de cette époque-là, c'est-à-dire non pas le début de la Beat Generation et Kerouac, etc., qui sont des oiseaux de pas grand-chose, mais les grands poèmes de Ginsberg, qui sont justement ce qui fonde comme ça ces approches cinétiques du poème avec ville, Fall of America, c'est des choses, c'est écrit dans les années 70, hein, en même temps que Colbert travaillait. Donc c'est pas. Et en s'enracinant, pour Ginsberg en tout cas, dans le même bain, c'est-à-dire la révolution surréaliste et puis la cassure de Rimbaud. Tous ces éléments techniques, l'inscription corps qui passe avant l'inscription sujet, les questions de zoom et de cadrage, les questions de logique de récit, Rimbaud suffit pour Colbert. Pour moi, je vois vraiment plus comme ça une espèce de très direct, quoi, où ce qu'il y a de lumière extrêmement dure, précise, acérée chez Rimbaud, tout d'un coup retrouve sa pleine pertinence. Parce que revalidé par une ville à autre échelle. En même temps, c'est extrêmement bizarre, la ville de Colbert, elle est parfaitement abstraite. Il n'y a pas de voiture, par exemple. Pas un hasard si elle a été chercher Venise. Enfin, c'est une grande inventrice d'abstraction. dans ce truc, ce meurtre là, moi c'est ce qui reste. Je sais pas, je crois pas plus que c'était un bon titre. C'est très bizarre. Hein, c'est, ça aussi, elle a, bon, les éditions de Minuit l'ont refoulé sous prétexte que c'était d'après eux trop lié à Beckett ou trop mimétique de Beckett. Ce que certainement pas vrai, c'est plutôt que Beckett autorise qu'on aille chercher là dans une espèce de source qui est encore très mal connue pour nous tous, où on voit tout aussi bien le fantôme de Kafka, mais Kafka lui il voyait Robert Walser, donc c'est une espèce de transmission très secrète mais parfaitement naturelle ou logique. Et je vois pas dans Beckett des figures qui expliquent directement les figures de meurtre. Par contre, à partir du moment où Gallimard accepte de publier ce bouquin, d'une part, on est dans une fragmentation de récit, d'un truc de... pas de nouvelles, mais... qui fait que peut-être dans une autre maison d'édition... on n'aurait pas pris ça comme un Gallimard raté, enfin, c'est pas l'expression qu'il faudrait. Mais il y a quelque chose qui colle pas, quoi. Et la preuve, c'est que quand elle le ramène, quand elle apporte à Gallimard son deuxième texte, là, c'est eux qui le refusent. Ils le refusent complètement. C'est pas une errance décidée non plus, Colaubert. Enfin, c'est vraiment un... On la met sur un chemin où... quel âge elle avait? Elle avait 32 ans, mais... Quand elle publie Meurtre, non, je sais pas, même pas.
Non, elle a 24 ans.
Ouais, c'est sûr qu'il y a une espèce de patience, c'est pour ça. S'il y a un lien avec l'idée de Colaubert ou un enseignement en tirer, c'est ça, c'est-à-dire d'accepter des écritures, même si on peut les considérer comme imparfaites encore. Ou des écritures qui ne connaissent pas elles-mêmes encore leurs propres lois, faire confiance à ces écritures parce qu'on a l'impression qu'elles rendent plus aiguë notre regard ou notre interrogation sur le monde, mais savoir en même temps que c'est ouvrir à une patience, quoi. Et cette patience, elle l'a refusée pour elle-même, quoi.
J'ai été très surpris soudain de me rendre compte que je ne le voyais plus que de dos, comme une fausse fixité d'horloge. Je suis dans l'attente de son visage. Il y a une centaine d'alvéoles ainsi, maintenant, tout autour de lui, sur un même cercle. Quand il sera de nouveau en face de moi, je pense qu'il va former un autre cercle intérieur, plus près de lui, puis d'autres plus près, encore près de lui, dont il sera toujours le centre. Mais en se rétrécissant ainsi sur lui-même, il faudra bien, logiquement, qu'à un moment donné, lequel, il se redresse peu à peu. Et si je suis encore là, finalement, après tant de temps, avoir cette patience, ce courage aussi. Alors, je pourrais le voir debout et savoir comment il est.
Voilà, la rencontre avec François Bon est terminée. Vous avez pu entendre des extraits de Meurtre, de Dire 1 et des cahiers de Daniel Colaubert qui sont édités chez POL.